Voilà. Alors, donc j'en étais aux quatre motivations.
L'amour de Jésus en premier.
Voilà. Donc la première, donc, c'est l'amour de Jésus, la rencontre personnelle avec l'amour de Jésus. Alors d'ailleurs, on peut noter dans cette première, on pourrait s'attendre à ce que le pape nous demande d'abord de contempler Jésus. Il n'est pas contre, hein. Mais c'est pas exactement ce qu'il dit. Alors, il dit pas seulement ça. À un moment, je trouve ça intéressant. Justement, si on a un peu de mal, nous avons besoin d'implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Placer devant lui le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui. Nous reconnaissons ce regard. C'est dans le numéro 264. Nous reconnaissons ce regard d'amour que découvrit Nathanaël le jour où Jésus se fit présent et lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voilà, être sous le regard de Dieu. Du coup, nous laisser regarder par Dieu. Mais je trouve que c'est quelque chose qui nous fait du bien, justement. Pas penser que c'est nous qui. C'est à la force du poignet, mais d'abord d'accueillir l'amour de Dieu. Alors, bien sûr, nous sommes invités aussi à, justement, à contempler cet amour de Dieu. C'est Saint Paul qui est l'évangélisateur par excellence. Mais c'est voilà, on voit que quand il dit par exemple aux Galates, je vis mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans le chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alors voilà, on voit que pour lui le moteur un peu de son désir d'évangélisateur, c'est le fait d'être aimé par Jésus, d'avoir conscience d'être aimé par Jésus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un passage, le passage où Saint Paul évangélise à Athènes. Ah, c'est au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Et ça termine comment? C'est pas un grand succès. C'est pas un grand succès. Et alors, il y en a qui disent, mais en fait, alors Saint Paul avait bien préparé, hein, pour voir la part humaine et la part divine. Il avait très bien préparé les choses. Son discours, et on voit qu'il était cultivé, voilà, donc il s'était bien construit, et voilà. Puis comment il commence à parler de la résurrection, il commence à se moquer de lui, il décroche. Et alors, combien de fois emploie-t-il le nom de Jésus dans son discours, tel qu'il est présenté dans les Actes?
On ne peut pas le lire, ce passage.
On ne va peut-être pas, mais vous pourrez le. Zéro fois, en fait. Il parle de la résurrection, il parle de. Mais pas de Jésus lui-même. Et alors, il y en a qui disent, justement, c'est peut-être pour ça que ça a été un échec. Parce qu'il a parlé de choses qui étaient tout à fait vraies et justes, mais pas assez explicitement à ce moment-là de la personne de Jésus lui-même. Il parlait de Jésus, mais il n'a pas employé le nom de Jésus. Et je trouve que c'est assez intéressant quand même. Aussi parce que nous. Alors on pourra le voir peut-être un petit peu après, mais. Ce n'est pas d'abord une philosophie qu'on annonce, une philosophie de la vie, une sagesse ou quelque chose. C'est d'abord une personne, c'est Jésus. Mais pour annoncer une personne, il faut la connaître d'abord. Il faut d'abord avoir une relation avec elle. Donc, quelque part, on voit en même temps que celui qui évangélise, ce n'est pas d'abord justement savoir des tas de choses. C'est parler de quelqu'un avec qui on a une relation. C'est quand même assez différent. Et du coup, on voit que la première motivation que donne le pape pour l'évangélisation, c'est d'avoir une relation avec Jésus, finalement. Alors, dans le numéro 265, donc il continue, toute la vie de Jésus, sa manière d'agir avec les pauvres, etc., nous parle. Et parfois, nous perdons l'enthousiasme pour la mission en oubliant que l'Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes. Alors, et Jésus et ce qu'annonce Jésus répond vraiment à ce que les gens attendent, même s'ils ne le savent pas forcément. Alors, ici, le pape François cite Jean-Paul II. Et Jean-Paul II avait, il me semble que c'est dans une des catéchèses où il introduisait justement toutes les catéchèses que Jean-Paul II a faites sur le credo. Donc ça a duré plusieurs années, ces catéchèses, ça a duré pas mal d'années. Mais dans une des premières catéchèses, il disait justement que nous, on n'allait pas vendre un produit dont les gens n'avaient pas besoin. Quelque part, quand on va parler de Jésus, il y a déjà des pierres d'attente chez les gens. Parce que quelque part, ils sont faits pour lui. Qu'ils le veuillent ou non, mais ils sont faits pour lui. Et du coup, c'est vrai que quand on... c'est autre chose, justement, d'aller voir des gens, mais peut-être ils n'ont pas besoin de notre produit. Mais évangéliser, on sait qu'ils en ont besoin et qu'ils sont faits pour Jésus. Donc, ça... Pour la motivation d'aller évangéliser, on sait que voilà, on ne vient pas imposer quelque chose que les gens dont les gens n'ont pas besoin.
Mais on peut rencontrer des personnes qui se ferment tout de suite.
Ah oui, elles peuvent se fermer. Elles peuvent penser qu'elles n'en ont pas besoin, effectivement. Et de fait, il y en a qui sont comme ça. Mais de fait, on sait que même s'ils le refusent, même si c'est pas pour autant qu'ils n'en ont pas besoin, parce que tout le monde a besoin d'être sauvé par la grâce, tout le monde a besoin d'être aimé, et il n'y a que l'amour de Dieu qui peut totalement nous combler. Voilà. Alors après, comme le dit le pape François, il faut trouver les mots. Quand on réussira à exprimer de façon adéquate et avec beauté le contenu essentiel de l'Évangile, alors ça répondra aux attentes les plus profondes des cœurs. Alors après, c'est nous, après, petit à petit, à essayer de trouver les mots pour... après, on fait comme on peut, et puis ça dépend de l'ouverture du cœur de la personne qui est en face, bien sûr. Là, au passage, on peut voir aussi l'importance de cette ouverture à l'Esprit Saint. Parce que nous, on fait ce qu'on peut... L'Esprit Saint peut nous inspirer, mais l'Esprit Saint peut aussi ouvrir le cœur de la personne pour qu'elle nous écoute. Donc on voit que c'est beaucoup plus qu'une œuvre humaine. Alors, au numéro 266, il évoque beaucoup la question de l'expérience personnelle. Il a des belles phrases. On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'est pas convaincu en vertu de sa propre expérience. Qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître. Que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons. Que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose que pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui ou ne pas pouvoir le faire n'est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C'est pourquoi nous évangélisons. Et un peu plus loin, et une personne qui n'est pas convaincue, enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc personne.
Quel charisme de te dire.
Oui, oui.
Il est apaisant ce pape, je trouve.
Et du coup, on voit que c'est pas, quand il nous invite à évangéliser, c'est pas forcément formuler des grandes phrases. C'est aussi, quelque part, dans notre expérience. Alors après, la catéchèse, c'est un autre moment où on est plus,
touchant.
Oui, plus précis pour exprimer la foi et où on ne réduit pas le Dieu à l'expérience qu'on en fait. Mais ceci dit, là, dans le premier contact, c'est beaucoup l'expérience qu'on a de Dieu. Et comment le dire avec nos mots à nous que finalement, ben, voilà ce qui change dans ma vie selon que je crois en Jésus ou non. Alors après, c'est aussi l'effet boomerang, parce que quelquefois on se dit, ben, finalement, est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Ou est-ce que je vais à la messe, tout ça, mais est-ce que vraiment en profondeur, est-ce que ça nous pousse dans nos retranchements aussi, quelque part, pour dire, mais jusqu'où Jésus est important pour moi? Et voilà, alors ça suppose de relire aussi, parce qu'il y a des gens, je pense, qui vont à la messe, mais qui n'ont peut-être pas cette relecture. Qu'est-ce que ça change à leur vie que Jésus soit, qu'ils croient en Jésus ou non? Du coup, on ne le fait pas uniquement par habitude, même s'il y a des bonnes habitudes aussi, mais voilà, on essaie de mettre des mots sur ce que ça change dans notre vie de suivre Jésus. Et au numéro 267, il parle de la gloire de Dieu. Alors ça, c'est assez jésuite, on pourrait dire, hein, puisque Saint Ignace était attaché, enfin tous les saints, hein, mais pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, alors peut-être qu'on n'a pas toujours une image très positive de la gloire de Dieu, où on dirait... Dieu qui veut qu'on glorifie, est-ce que c'est pas un peu égocentrique ou narcissique? Mais non, je pense que c'est aux yeux humains, c'est peut-être quelquefois un peu difficile à comprendre, mais en même temps, peut-être une parole de Saint Irénée. Vous connaissez peut-être cette parole de Saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, Benoît XVI l'a exprimé telle ou telle fois, ça ne nous enlève rien de glorifier Dieu, au contraire. Au contraire. Alors ça, c'était la première motivation, c'est de connaître Jésus, aimer Jésus, voilà, de voir que la vie avec Jésus n'est pas la même que sans Jésus. Le deuxième motif, c'est, il l'intitule comme ça, le plaisir spirituel d'être un peuple. Alors derrière ce titre, en fait, en dessous, il nous dit, un peu plus loin, pour être d'authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le goût spirituel d'être proche de la vie des gens. C'est ça, le plaisir spirituel d'être un peuple, être proche de la vie des gens. La mission est une passion pour Jésus, mais en même temps une passion pour son peuple. J'aime bien cette expression. Et alors ça, c'est très fort. C'est au numéro 268. On voit que pour le pape François, c'est quelque chose... Et on voit qu'il aime être avec les gens, il n'aimait pas rester enfermé dans le Vatican, etc., mais voilà, donc il nous transmet un petit peu ce qui est quelque chose qui lui est en même temps très personnel, mais on voit que pour lui, vivre, c'est pas pour lui, il vit aussi pour les autres, et c'est les autres d'une certaine manière qui le font vivre aussi. Et alors il le développe, alors déjà on voit que il trouve ça chez Jésus qui, qui vivait pas pour lui-même mais pour les gens. Hein, alors au niveau 269, il prend quelques exemples dans cette relation avec le jeune homme riche, après quand il mange et boit avec les pêcheurs, quand, on le voit disponible, même la nuit pour accueillir Nicodème. Voilà. Et cette disponibilité de Jésus parce qu'il voilà, il vit pour les gens. Il est proche des joies et des soucis des gens. On voit que dans ce cadre-là, on comprend peut-être mieux aussi pourquoi le pape François fustige souvent l'indifférence. Hein, l'indifférence où finalement on se referme sur soi-même, etc. Parce que...
On n'est pas touché par l'autre.
Oui. Et il prolonge un peu dans le numéro 270 en disant « Parfois nous sommes tentés d'être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Et quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l'expérience intense d'être un peuple, l'expérience d'appartenir à un peuple. » Là, il y a quelque chose d'assez beau aussi, parce que c'est vrai que les souffrances des autres ou les problèmes des autres, ça peut nous faire peur un peu, et puis du coup on reste, comme il dit, à une prudente distance. Mais en même temps, souvent c'est quand on accepte d'être proche des gens qui souffrent qu'on fait une expérience spirituelle assez profonde. C'est souvent le lieu d'une expérience spirituelle. Alors, de ce point de vue-là, comme prêtre, on est souvent amené à être... Mais c'est quelque chose qui est assez beau aussi. Alors, on ne sait pas forcément quoi dire, on n'est pas... Bon, et puis, il faut accepter de ne pas être tout puissant. Hein, mais en même temps... quand on est sur ce registre-là, on n'est pas dans le domaine des banalités, des choses superficielles. Hein, c'est vraiment on sent que les gens s'ouvrent vraiment de quelque chose de profond qui les touche intimement. C'est pas. Et alors, ça nous fait vivre une vraie expérience spirituelle. Dans le numéro 271. Il nous dit un peu l'attitude, justement, on est un peuple. Les pharisiens, leur attitude, c'était le nom, hein, pharisien, c'est séparé. C'était un peu de se démarquer et puis de ceux qui n'agissaient pas très bien. Et c'est un thème qu'on retrouve souvent chez le pape François quand il dit non, il faut. La logique de Jésus, c'est une logique d'inclusion. Ce n'est pas une logique d'exclusion. C'est-à-dire que voilà, on se met pas à distance de ceux qui des mauvais. Alors il y a une prudence certainement, mais on se rend proche. Hein. C'est pour ça que Jésus allait manger à la table des pêcheurs. Voilà, il était parce qu'il n'exclut pas les gens, il se met pas ou il pointe pas du doigt pour. Voilà, lui il fait ci et puis en se considérant comme meilleur. On prétend pas être supérieur ou à regarder les autres avec dédain. Mais voilà, on fait partie du même peuple.
C'est dur pour nous les hommes qui avons plus ou moins la tendance à juger ou à condamner, oui. ou simplement être dérangé, montrer que tu me déranges, quoi, c'est tout. Voilà. Et puis là, dans ces cas-là, on sort les griffes.
C'est vrai que c'est pas. C'est
moi,
pas...
des fois, je regarde souvent ça, puis je me dis, oui, mais c'était Jésus, quoi. Mais moi, non, j'arrive pas, quoi.
Ah ben. Et comment faire passer ça ? On n'y arrive pas toujours, ça, c'est vrai.
C'est le but de l'évangile.
En même temps, comme tout, on voit que une chose est de ne pas y arriver, une chose, mais de s'y efforcer, une chose est de même pas le voir. C'est pas, parce que quelquefois, bon, on voit qu'on a un peu de mal à y arriver, mais on n'est pas fier. On se dit que c'est quand même dans cette direction qu'il faudrait marcher. Mais quelquefois, peut-être certaines personnes ne le voient même pas, et du coup, ça ne les gêne pas de... Ça ne les gêne pas du tout. Et le numéro 272, donc il a des phrases assez fortes pour dire qu'on ne rencontre pas Dieu sans les autres. L'amour pour les gens est une force spirituelle qui permet la rencontre totale avec Dieu. À tel point que celui qui n'aime pas son frère marche dans les ténèbres, demeure dans la mort et n'a pas connu Dieu. Benoît XVI a dit que fermer les yeux sur son prochain rend aveugle aussi devant Dieu. C'est quand même des phrases assez fortes, hein? Alors, autre phrase assez forte, il en ressort que si nous voulons grandir dans la vie spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d'être missionnaires. Ça, pour lui, une vie spirituelle, si on n'est pas missionnaire... une vie spirituelle. On est condamné à végéter. Là, il est encore là une très belle phrase. En même temps, un missionnaire pleinement dévoué expérimente dans son travail le plaisir d'être une source qui déborde et rafraîchit les autres. C'est assez beau aussi. Quelque part, c'est par surcroît, c'est pas d'abord ça qu'on recherche. On recherche pas d'abord à être une source, mais par surcroît, on voit qu'on reçoit. Voilà, on est comblé. D'ailleurs, il y a des gens, on voit des gens qui rendent beaucoup service, etc. Et après, il leur arrive quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont soin d'eux ou qui prennent des nouvelles ou voilà. Mais quelque part, c'est un juste retour des choses, d'une certaine manière. Ils ne l'ont pas du tout fait pour ça. Mais on voit quelquefois des personnes qui sont assez rayonnantes, etc. Et du coup, ils ont le plaisir d'être une source qui déborde et rafraîchit les autres. Et après, les autres savent aussi leur témoigner aussi, je pense. Pas toujours, hein, que la gratitude n'est pas universelle, mais quand même... Quand même. Mère Teresa, elle ne faisait pas les choses pour recevoir des applaudissements, mais malgré tout, elle recevait quand même des gens qui l'appréciaient, et je pense que ça devait être important pour elle aussi.
On dit ça aussi de Saint François de Sales, souvent. La présence qu'il avait, il paraît que c'était.
Oui.
Je suis en train de lire Saint François de Sales en ce moment, mais c'est vrai que c'est. Sûrement aimante.
Je vais peut-être pas tout lire, sinon. En 274, il parle de justement toute personne est digne de notre dévouement. Ne pas faire de tri, etc. Puisque toujours la même motivation, Jésus-Christ a versé son précieux sang sur la croix pour cette personne, quelle que soit son apparence. Alors ça, c'était la deuxième motivation pour évangéliser, c'est cette motivation d'être un peuple, pas seulement l'amour pour Jésus, mais l'amour pour les gens. Alors du coup, quand on aime les gens, on dit qu'on ne peut pas garder pour nous quelque chose qui nous fait vivre, qui nous donne une espérance. Il faut vraiment leur transmettre. Bon, si on est indifférent à l'égard des gens, bien sûr, on peut garder pour nous l'évangile, mais... C'est vrai que quelquefois, je pense sous cet angle-là, de dire, mais c'est comme non-assistance à personne en danger, quelque part. On voit des gens malheureux et on a une espérance qui pourrait les aider dans leur vie et puis on ne leur dit pas. Alors, mais il dit positivement comme il le dit, ben, c'est une motivation. On se dit, mais si j'apprécie ces personnes, si elles me sont, il faut que je leur transmette quelque chose qui me fait vivre. Voilà, alors la troisième motivation, c'est l'action mystérieuse du ressuscité de son esprit. Alors c'est numéro 275 et suivant. Alors première chose, on voit déjà dans la vie des apôtres, on voit que la résurrection, il y a un avant et un après, ou en tout cas le fait qu'ils croient en la résurrection. Parce que tant qu'ils ne croient pas en la résurrection, qu'ils ne l'ont pas vraiment assimilé, quelque part ça ne produit pas encore. Mais quel est le cœur de l'évangile? Au point de départ, le noyau de l'évangile, c'est Jésus est mort, vous avez tué Jésus, Dieu l'a ressuscité, alors convertissez-vous pour recevoir le pardon. C'est ça le cœur de l'évangile. On n'aurait pas écrit le reste de l'évangile si Jésus n'était pas ressuscité. Alors, donc ça, c'est une certitude, mais une certitude de foi. Alors, dans les paragraphes qui suivent, on voit que c'est pas forcément, il n'y a rien de triomphaliste dans ce que dit le pape, parce que la résurrection, on voit encore le mal à l'œuvre dans le monde. Voilà, c'est pas non plus un coup de baguette magique, mais voilà, et on est appelé à vivre de foi par rapport au mystère de la résurrection. Et c'est cette certitude intérieure qui nous aide à poursuivre la route et qui nous aide à nous donner avec amour, à continuer à nous donner avec amour, même si c'est la nuit. On pense à Mère Teresa aussi. C'était la nuit, mais elle a continué son chemin. Alors, tous ces paragraphes de 275 à 280, on voit que il y a une foi en la résurrection, mais c'est pas quelque chose de triomphaliste, comme si ça réglait tous les problèmes et puis qu'il y avait plus de souffrance et que on croit véritablement à la résurrection, mais pour l'instant, en tout cas, il y a encore un combat dans le monde et dans notre propre vie. C'est pas... Voilà. Mais la lumière de la résurrection, ça change quand même la perspective. Si on ne partirait pas à la guerre, si on ne pensait pas qu'il y avait une possibilité de victoire. Et là, ce n'est pas seulement une possibilité, on sait que la victoire est acquise. Mais j'avais regardé des choses sur la motivation. Et une des choses, des premières choses pour être motivé, c'est avoir l'impression que c'est quand même accessible, possible. Si c'est même pas possible, on se démotive tout de suite. Et voilà, avec la résurrection de Jésus, on voit qu'il y a quelque chose qui est possible. Alors c'est dans la foi, mais ça suppose de savoir lire aussi les choses positives. Bien sûr, il y a des choses négatives, mais on voit aussi des choses positives et il faut savoir les voir. C'est important de pouvoir les voir. Voilà. Alors, on arrive... Bon, après, si vous avez des questions, vous me direz... Hein. On arrive à la quatrième motivation, c'est la force missionnaire de l'intercession. Alors, au début, je ne comprenais pas très bien, je dois vous avouer, en quoi c'était une motivation. Ça rejoint un peu la deuxième, hein, le plaisir spirituel d'être un peuple. Finalement, l'intercession, c'est porter dans notre cœur la détresse des autres, porter devant Dieu la détresse des autres. Du coup, c'est aussi ça nous stimule à Et du coup, c'est aussi une motivation, le fait de ne pas rester insensible par rapport à leurs besoins ou à ce qu'ils font de bien, hein, parce qu'il parle aussi de l'action de grâce. Cette attitude se transforme aussi en remerciement à Dieu pour les autres. Mais tout ça, c'est une motivation pour continuer.
C'est aussi une forme d'espérance, intercession.
Oui, oui, on pourrait dire ça.
Ou alors ça ne sert à rien d'intercéder. Je trouve que s'il n'y a pas l'espérance en dernier, on peut intercéder, ça ne va mener à rien.
Oui.
On peut bien dire que le Seigneur il va faire quelque chose pour ces gens-là, même sinon on ne voit rien.
Oui, la plupart du temps, on ne voit pas. Quelquefois, on voit, donc oui. Ça vaut la peine aussi de remarquer, mais bien souvent c'est vrai que on reste voilà, donc ce sont les quatre motivations qui peuvent nous aider. Et je pense que dans l'intercession c'est aussi le fait que ça rejoint un petit peu ce qu'il disait au départ au numéro, je ne sais plus quand il disait à la fois la prière et l'action. Ben déjà dans la prière de vouloir, ben le Seigneur aussi nous invite à faire aussi ce qu'on peut. Bien sûr, tu peux prier les gens, mais pour les gens, mais tu peux aussi faire quelque chose pour eux. Alors l'intercession nous conduit aussi, je pense, de ce point de vue-là. Peut-être que ça nous aide à mûrir, à progresser pour être à même aussi après d'agir pour les autres. Voilà, alors ça c'est les quatre motivations, et puis après il parle de Marie. Alors je vais vous terminer sur Marie. Marie, la mère de l'évangélisation. Alors, au numéro 284, les suivants. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Marie dans la parole de Dieu, mais on en parle à des moments déterminants. Entre autres, hein, je vais pas être exhaustif, mais bien sûr à la naissance de Jésus, mais aussi à Cana, donc c'est le début de sa vie apostolique, et puis à la Pentecôte, c'est le début de la vie apostolique de l'Église, on pourrait dire. Donc Marie est vraiment là aussi à des moments déterminants. Voilà. Donc, même si elle n'est pas omniprésente explicitement, elle est bien là. Dans le paragraphe de 285, le pape repart. Alors, il parle davantage de Marie comme notre mère, hein, les numéros 285 et 280 suivant, 6. Et après, il parlera plus de Marie comme étoile de la nouvelle évangélisation, comme modèle, on pourrait dire. Mais là, donc, il y a deux paragraphes sur Marie. Un plutôt Marie comme mère, et après, ce sera plutôt Marie comme modèle, on pourrait dire. Et là, cette Marie comme mère, alors vous savez, le passage biblique qui dit que Marie est notre mère, c'est surtout Saint Jean au chapitre 19, sur la croix, quand Jésus. Les exégètes nous disent que. Alors le pape en parle, il dit que c'est une formule de révélation. Les exégètes nous disent que Saint Jean nous présente l'épisode de la croix selon un schéma de révélation. Alors ça se trouve à d'autres endroits, par exemple au début de l'évangile de Saint Jean. Alors il y a un envoyé de Dieu qui voit un personnage dont il indique le nom. Alors au début de l'évangile de Saint Jean, c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus arriver. Après, il déclare quelque chose, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Euh, où il en parle, et après, justement, voici l'agneau de Dieu. Et là, pareil un peu pour Marie, voilà, Marie était là, il y a la description, et puis après, voici ta mère. Et, mais Jésus ne commence pas par s'adresser à Jean, voici ta mère, mais il commence par s'adresser à Marie, voici ton fils. Donc on voit bien que ce n'est pas d'abord pour que Jean subvienne aux besoins matériels de Marie. Il y a un sens beaucoup plus large, d'autant plus que dans tout ce passage de l'évangile de Saint Jean, ce n'est pas pour des banalités, c'est... Et juste après, justement, avoir donné Marie comme mère à Jean, mais à travers Jean, Jean représente tous les disciples. Juste après, Jésus peut dire, sachant que tout était achevé, voilà, tout est achevé après. C'est... Alors, il y en a qui disent, justement, c'est comme si Marie était instituée notre mère. Là, elle n'est pas ordonnée prêtre, mais c'est juste pour faire comprendre que dans ce schéma de révélation, comme disent les exégètes, voilà, Jésus donne vraiment une mission à Marie à ce moment-là. Ce n'est pas Marie qui se donne une mission ou nous qui l'avons créée par la suite, c'est vraiment Jésus qui nous la donne. Le paragraphe 286 est assez beau aussi pour ça, en montrant que Marie sait mettre beaucoup de tendresse et d'amour là où il n'y en a pas. Il prend quelques exemples à Noël ou à Cana. Et de fait, pour Marie, c'est aussi l'expérience qui a conduit les chrétiens à s'adresser à elle. Ils voyaient que ça marchait, entre guillemets. Que ça marchait, s'adresser à Marie, ils obtenaient des grâces. Hein, c'est pas d'abord une théorie qui les a invités à se tourner vers Marie. C'est tout simplement, ils se sont dit aussi avec leur bon sens... Jésus, quand même, il ne doit pas être insensible à ce que lui demande sa mère. Alors, bien sûr que si Marie nous obtient des grâces, c'est parce que Jésus le veut bien. Elle ne donne pas de son propre trésor personnel, elle nous donne ce qui vient de Jésus. Mais voilà. Donc, les chrétiens ont essayé, on pourrait dire, et ont vu que ça marchait, donc ils ont continué. Pour dire les choses simplement.
Je sais pas, c'est une mère.
Oui, alors spontanément, une mère, on sait que elle va pas résister pour donner certaines choses. Donc ça, c'est plus l'aspect maternel de Marie qui est mis en évidence par le pape François. Hein. Le pape François aime beaucoup Marie, bon, tous les papes, hein, Jean-Paul II, ben, c'était évident, mais les autres aussi l'aimaient beaucoup. Et le pape François, après chaque voyage, il passe à Sainte Marie Majeure, à Rome. Hein, donc ce n'est pas un secret qu'il aime bien la Sainte Vierge. Et alors, ça c'est les numéros 285 et 86. Et après, numéro 287 et suivant, c'est, et 88, c'est Marie comme étoile de la nouvelle évangélisation. Alors ce titre, il le reprend aussi du pape Paul VI, hein, qui donnait dans Evangelii Nuntiandi. Voilà. Et alors là, c'est davantage Marie comme modèle. Et modèle notamment avec Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur. Jean-Paul II avait insisté sur le fait, bon, déjà au niveau du Concile, on avait dit une chose qui n'était peut-être pas évidente pour tous, c'est que Marie avait progressé dans la foi. Peut-être que la Thérèse de Lisieux, pour ça, parle très bien de Marie. Parce qu'à un certain moment, il y a des prédicateurs qui ajoutaient beaucoup de superlatifs pour parler de Marie, mais nous la présentaient quelquefois comme un peu inaccessible. Et le Concile, le Concile a dit que Marie aussi avait aussi cheminé dans la foi. Alors, sa foi était toujours aussi complète qu'elle pouvait l'être, mais n'empêche que sa foi a grandi. Et que, voilà, sinon on fait une Marie qui est quelqu'un d'un peu désincarné. Et voilà, donc Marie est vraiment notre modèle parce qu'elle a dû aussi cheminer dans la foi. Elle a été parfaitement fidèle, mais n'empêche qu'elle n'a pas toujours compris, elle n'a pas, voilà, sans que ce soit de sa faute, mais voilà. Et dans le dernier paragraphe, le 288, le pape parle d'un style marial. Alors, c'est le style aussi d'une mère. Hein. Nous voulons croire, quand nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. Tout cet aspect de tendresse, de délicatesse. Et on voit en particulier de ce fait-là que Marie est très proche de ceux des petits et de ceux qui souffrent. Marie est très humaine, hein, d'une certaine manière. On a besoin d'être traité de façon très humaine. Voilà un peu ce que je voulais vous dire là, sur cette cinquième et dernière partie de l'encyclique, non pas de l'encyclique, mais l'exhortation apostolique, l'évangile de la joie. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Ben moi, je reste toujours sur le. J'ai pas bien compris encore. Comment on peut toucher des personnes qui se ferment, aveugles, qui refusent, et ou, qui n'ont même pas conscience, comme tu disais. Refuser, c'est encore quelque chose. On ressent, puis on dit non, ça ne me concerne pas. Mais ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas tout le trésor qu'on peut avoir, de l'amour, de tout ça. Et puis, non, ça n'existe pas. J'en ai bon nombre autour de moi, mais souffrant. Comment leur dire, justement? Alors, en les aimant, ben peut-être, mais on s'épuise très très vite, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on est vite attaqué, hein. Très très vite, on est la cible, au front du combat, là, directement. Alors, le but, il n'est pas de tomber, c'est surtout pas. Et puis, d'envoyer les rester comme ça au front. Bon, il faut être prudent, et puis c'est pareil. Mais c'est vraiment ma question. Parce que c'est le but de l'évangélisation.
Alors, il y a tout ce passage que je n'ai pas beaucoup développé sur la résurrection, où il dit, mais voilà, quelquefois, on ne voit pas trop ce qu'on fait. Et En même temps, il dit que c'est, il le présente vraiment comme une motivation, mais en même temps, on ne voit pas forcément le fruit. Alors, après, on tâtonne, on ne sait pas très bien. Après, il y a la part de la liberté de la personne qui accueille, qui n'accueille pas. Après, il y a notre maladresse, plus ou moins. Bon. Oui.
Et puis, ça, comme on disait, c'est un trésor qui vit d'autant plus qu'on peut le partager. Hein? On est d'autant plus heureux quand on est partagé. Ce trésor-là, c'est pas pour le garder pour nous. C'est pour quand on peut le donner aux autres, que ça éclaire les autres.
On sait que ça va grandir.
On est tout de suite, on est. C'est pas la peine qu'on nous dise merci. On est déjà heureux, quoi, je veux dire, d'avoir partagé. Quoi. Donc, c'est vrai, quand on voit des gens qui se ferment et tout, ça nous crucifie, ça nous fait très mal. Mais en même temps, je crois que malheureusement, on n'a que le témoignage de dire moi, j'ai bien ça pour vivre. J'avais un collègue, genre, quand j'étais en lycée public, je ne croyais pas du tout en général. Donc, à la fin, j'essayais de me sortir un épée, de dire oui, c'est vrai, dimanche, parce que vous m'avez vu, je faisais des vélos. Ah oui, c'est vrai, dimanche, on risque de se croiser, moi, je vais à la messe. Hein. Lui, il a le café. Mais sur un point d'épée comme ça, d'en faire un petit peu, parce que des fois, il y a des petits trucs. Parce que là, ça n'a rien à voir avec les religions, mais je sais qu'il fumait à mort, et en plus, on était dans une annexe où il se permettait de fumer devant les élèves, et même en cours à la fin. C'était horrible. Hein. Il était vraiment intoxiqué. Il a failli passer à gauche à cause de rien, quoi. Mmh. Mais pendant des années, je lui ai dit, mais au moins ne fume pas devant tes jeunes filles, parce que souvent ils prennent la pilule, tout ça, donc c'est hyper dangereux. Donc j'ai passé plusieurs années à essayer de lui expliquer, alors il m'a dit, oh, mais la TVA, l'État, ils s'enrichissent, notre dos, etc. Je dis, moi je suis le médecin, je sais qu'ils s'enrichissent pas du tout, en fait, donc j'ai essayé de discuter. Ça avait l'air de servir à rien du tout. Puis un jour, 4-5 ans après, à la rentrée des classes, on m'a appris qu'il avait arrêté de fumer d'un coup. Et je me dis en même moi-même que tout ce qu'on lui a dit, parce qu'il y a eu une alerte chez le cardiologue, mais il a quand même dû se dire tout ce qu'on lui avait dit, expliqué le jour-là, oui. La barrière, elle a craqué, et il s'est dit non, je suis le con. Et je me demande si nous, quand on ne peut pas plus, on ne peut pas insister, ça ne sert à rien d'être quoi. On peut proposer, puis c'est tout. Et je me demande si peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, la personne, on ne sera pas là pour le voir, mais peut-être qu'un jour, elle craquera, sa carapace, elle tombera.
Ou un autre récoltera ce qu'on a semé. Ça, on fait l'expérience qu'on n'est pas tout puissant dans ce domaine-là, qu'on est très pauvre et on a resté pauvre. Bon.
On fait ce qu'on peut, Dieu sait, le Seigneur qui fera le reste. Je porte le principe.
Après, en même temps, il faut se creuser la tête pour savoir quelquefois s'améliorer.
C'est ça qui est plus dur, c'est ça qui est plus dur. Des fois,
c'est le boulot de Jésus, nous on fait notre distinction. Mais on veut toujours. On veut toujours que ce soit nous qui réussissions à transformer. Mais non, Jésus, il est là pour ça. Nous, on sème les graines après.
Des fois, c'est très très proche de nous qui
fera pousser.
Hein. Il nous renvoie en pleine figure. Oui, je suis un chrétien, c'est pas ça, etc. Car démontre tout ce qu'on fait, en fait, etc. Quoi. Donc, puis là, il faut rester avec un grand souvenir. Donc, bon. Mais comme en plus, c'est des personnes proches, elles ont fait mal.
Oui. Mais ce qu'il dit autour de la résurrection dans le. C'est pas du tout triomphaliste. Hein.
Oui, j'ai remarqué ce matin. Oui.
Jésus avec le jeune homme riche.
L'expérience de l'échec, les bassesses humaines.
Jésus, il n'a pas été suivi la journée.
On ne sait pas si après c'est pas transformé.
Peut-être un plus tard, mais pas sur le coup.
Le 277.
Oui,
peut-être
le 277.
Oui, exactement.
Ce qui compte, c'est que.
S'ils peuvent découvrir avant, c'est mieux.
C'est mieux, c'est mieux. Hein.
Non, mais ce qu'on disait Jésus avec le jeune homme riche, ben, oui, sans oui. Coup, le jeune homme riche, il n'a pas été. Enfin,
bah
il
oui.
Pas, il était
triste. Exactement, il est parti, oui. Puis voilà. Il a dû se morfondre. Ah non, mais peut-être qu'un jour, il t'a dit des choses, il va changer de vie en se souvenant de Jésus. Hein. Non, vous ne pouvez pas vous plaire.
Donc.